Il est 18h, le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Donald Trump continue de dénoncer l'attitude agressive de l'Iran et Emmanuel Macron rétorque que la crise iranienne ne peut se réduire à une politique de sanctions, comme une répétition de la séquence d'hier. L'Aquarius, toujours au large de Malte, va pouvoir débarquer ses passagers, mais il a impérativement besoin d'un nouveau pavillon pour poursuivre ses activités. Le Congrès des régions de France s'ouvre ce soir à Marseille. Les élus locaux se sentent maltraités. Ils dénoncent une recentralisation massive depuis le début du quinquennat. Alors que le ministère de la Justice compte créer 20 nouveaux centres éducatifs fermés pour mineurs délinquants, un rapport sénatorial appelle à faire primer l'éducatif sur le répressif et à ne recourir qu'exceptionnellement à l'enfermement. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, se déroule à New York une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, réunion convoquée par Donald Trump et consacrée au maintien de la paix, aux armes chimiques et à la non-prolifération nucléaire. Et le duel, entamé hier entre le président américain et son homologue français, s'est poursuivi aujourd'hui. On retrouve Bertrand Galichet à New York.
Sans surprise, dans le viseur de Donald Trump, l'Iran, dont il dénonce l'attitude de plus en plus agressive, appelant la communauté internationale à priver Téhéran des ressources qui lui permettent, dit-il, de développer son programme nucléaire. Réponse d'Emmanuel Macron, la crise iranienne ne peut se réduire à une politique de sanctions. Pour le président français, le respect de l'accord sur le nucléaire iranien s'impose à tous ceux qui l'ont signé. Nous devons rester unis pour faire respecter la non-prolifération. Une pique contre Donald Trump qui s'applique aussi au dossier de la Corée du Nord que les États-Unis entendent gérer seuls. Dans son intervention, le président américain a dressé un tableau louangeur de Kim Jong-un, un homme que j'ai appris à connaître, un dirigeant qui veut la paix et la prospérité de la Corée du Nord, dit Trump, en promettant de bonnes nouvelles dans les prochains mois, même si la pression doit continuer à s'appliquer sur le régime. Visiblement, Emmanuel Macron ne partage pas cet enthousiasme, insistant au contraire sur la menace que représente la Corée du Nord en matière nucléaire. Un échange qui ressemble beaucoup, comme hier, à un dialogue de sourds.
Bertrand Galichet au siège des Nations Unies. La Cour suprême indienne vient de rendre un jugement très attendu. Elle se penchait sur la légalité de la carte d'identité biométrique du pays. La carte Aadhaar, créée en 2009, est très intrusive. Elle a permis la collecte des empreintes digitales et de l'iris de plus d'un milliard d'habitants, devenant ainsi la plus grande base de données biométriques du monde. L'objectif, c'est d'offrir des services publics plus efficaces aux Indiens. Mais dernièrement, le gouvernement a aussi autorisé les entreprises privées, comme les compagnies de téléphone ou les banques, à réclamer cette carte, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes. La Cour suprême vient de restreindre largement le partage de ces données sensibles avec les entreprises privées, ce qui rassure un peu les citoyens indiens. Le reportage de Sébastien Farcy à New Delhi.
La structure de la carte Aadhaar est sauve. 4 juges de la Cour suprême sur les 5 ont confirmé la validité de cette collecte des données biométriques tant que c'est fait pour faciliter les missions de service public. Cette carte sera donc toujours exigée lors de l'attribution de rations alimentaires ou du paiement des impôts. Mais les compagnies privées de téléphone ou les banques ne pourront plus forcer leurs clients à donner ces informations sensibles au moment d'ouvrir un compte. Rohit, un entrepreneur de 57 ans, est partiellement soulagé.
Il nous avait d'abord dit que cette carte Aadhaar était faite pour prouver votre identité. Et c'est pour cela qu'il demandait les empreintes digitales et de l'iris. Mais partager ces données personnelles avec les banques et autres, c'est beaucoup plus problématique. Car les données peuvent être détournées. Alors oui, ce jugement est positif. Et moi, j'ai déjà donné toutes ces informations à ma banque, et ma compagnie de téléphone, donc, cela ne fera pas de différence pour moi.
La Cour suprême n'a pas explicitement demandé à ces compagnies d'effacer ces données collectées, mais leur utilisation serait maintenant illégale. Cependant, il en faudra plus pour regagner la confiance des Indiens dans ce système. Ces derniers mois, les informations personnelles de dizaines de milliers de personnes ont fuité sur les sites de plusieurs administrations, démontrant la vulnérabilité de la plus grande base de données biométriques du monde. Les juges ont ainsi ordonné au Parlement de passer une loi pour la protection de ces données, une requête déjà émise par la société civile depuis la création de l'Aadhaar il y a 9 ans.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et France Culture en Inde. Souvent critiqués pour leur captation des données personnelles, Facebook et Google le sont aussi pour les fausses nouvelles qu'ils laissent circuler. Au printemps dernier, la Commission européenne avait mis en demeure les entreprises des secteurs des nouvelles technologies et de la publicité, leur demandant de rédiger un code de bonne pratique pour effacer les contenus trompeurs ou illégaux. Le secteur vient de prendre des engagements, Quentin Dickinson. Quentin Dickinson. Ah non, on ne l'a pas, on va donc partir au Royaume-Uni où Jeremy Corbyn se dit prêt à gouverner. Dans son discours de clôture du congrès du Parti travailliste à Liverpool, il a accusé la première ministre Theresa May de vandalisme social et d'incompétence sur le Brexit, même si le Labour est lui-même divisé sur le sujet, Antoine Gignot.
C'est le sujet qui a dominé le congrès des travaillistes et pourtant, Jeremy Corbyn, dans son discours fleuve, plus d'une heure au total, a soigneusement évité d'en parler. Car si l'écrasante majorité des militants se dit favorable à un second référendum, les électeurs traditionnels du parti, eux, sont beaucoup plus partagés. Ils sont 35% à avoir voté pour le Brexit en 2016, essentiellement des ouvriers, les classes populaires, et Jeremy Corbyn ne peut pas se permettre de les laisser de côté. La priorité, dit-il, c'est de faire tomber la première ministre Theresa May. Les parlementaires de gauche voteront, quoi qu'il arrive, contre l'accord commercial conclu par le gouvernement avec Bruxelles. Et s'il n'y a aucune autre alternative, ils réclameront des législatives anticipées. Quand on n'arrive pas à négocier, explique Corbyn, on doit laisser sa place à ceux qui savent le faire. Mais le numéro 1 du parti pointe surtout le bilan de 8 années d'austérité destructrice, dit-il, et de vandalisme social. Il tente également d'apaiser les tensions après les accusations d'antisémitisme. Je me battrai pour l'éradiquer jusqu'à mon dernier souffle. Un discours donc centré autour de la nécessité de se rassembler, de s'unir contre les conservateurs. Pas sûr pourtant que cette unité de façade dure longtemps. À l'extérieur de la salle, des militants proches de Corbyn et à gauche de la gauche brandissent des pancartes avec cette inscription « Les centristes, les partisans de Tony Blair, dehors, vous n'avez qu'à quitter le parti ».
Antoine Gignot en direct de Londres et Jeremy Corbyn rencontrera demain le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier. On vous a retrouvé à Bruxelles, Quentin Dickinson ?
Oui.
Donc la Commission européenne avait mis en demeure Facebook, Google et d'autres entreprises de nouvelles technologies ou de publicité au sujet des fake news, hein, les fausses nouvelles qu'ils laissaient circuler aujourd'hui. Ils ont pris des engagements en termes de bonnes pratiques.
Oui, et ces engagements portent principalement sur la chasse aux fausses informations, ainsi que sur l'identification du caractère publicitaire des textes publiés, de même que de l'origine privée ou professionnelle d'une offre commerciale. Ce code de bonne conduite sera observé par nombre de géants de l'Internet, dont Facebook, Amazon, Twitter ou encore Google. C'est que, depuis le scandale du détournement massif et à des fins électorales de fichiers individuels par l'officine Cambridge Analytica, la Commission européenne n'entend plus laisser traîner en longueur ses demandes de mise en conformité aux lois européennes et nationales dans l'application au domaine numérique des règles d'information et de protection du consommateur. Pour beaucoup ici, les engagements de ces multinationales restent encore trop vagues, aucune sanction n'est prévue en cas de manquement constaté et la crédibilité des codes de conduite proposés par les secteurs d'activité eux-mêmes est quelque peu entamée par ceux dont l'UE a déjà l'expérience, notamment chez les lobbyistes ou encore chez les cigarettiers. L'initiative annoncée aujourd'hui ne suspend en rien les procédures déjà en cours à l'encontre de Google et de Facebook que la Commission européenne vient de mettre en demeure de régulariser leurs pratiques avant la fin de l'année.
Quentin Dickinson à Bruxelles. Les 58 migrants sauvés par l'Aquarius vont pouvoir être pris en charge à Malte, parmi eux 37 Libyens fuyant le climat de crise aiguë dans leur pays. Pour ces exilés, le périple pourrait s'achever en Allemagne, en France, en Espagne ou au Portugal. Pour le navire humanitaire, en revanche, rien n'est réglé. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Aurélie.
L'Aquarius s'est vu retirer son pavillon panaméen et Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, recommande à SOS Méditerranée de se tourner vers l'armateur du navire pour régler cette situation juridique compliquée. Alors d'abord, Marie-Pierre, pourquoi est-ce que l'Aquarius avait un pavillon du Panama ?
Bien, rappelons d'abord que l'Aquarius a tout d'abord navigué sous pavillon de Gibraltar jusqu'à cet été. En fait, jusqu'à ce que la fermeture des ports italiens transforme en casse-tête chaque opération de sauvetage en Méditerranée. Gibraltar lui a retiré son pavillon, arguant que le navire menait des opérations de sauvetage alors qu'il lui était demandé de revenir à ses activités de simple recherche. On voit bien la faiblesse, sinon l'inanité de l'argument. SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières qui affrètent l'Aquarius ont alors cherché un nouveau pavillon et choisi celui de Panama. Très répandu, c'est le pays qui immatricule la plus grosse flotte au monde.
Alors, pourquoi est-ce que le Panama est revenu sur sa décision ?
Eh bien, le Panama a d'abord accusé le bateau de ne pas respecter le droit international en matière de secours en mer, ce que lui aurait signalé l'Italie, qui reproche à l'Aquarius d'avoir refusé de ramener les migrants secourus à leur lieu d'origine. Leur lieu d'origine, c'est-à-dire la Libye. Or, la Libye est tout sauf un port sûr. Le Haut Commissariat aux réfugiés lui-même et l'Europe reconnaissent que les migrants y sont exposés à des traitements inhumains et des violences. Bref, les ramener en Libye aurait au contraire violé les conventions internationales, sans parler de la morale. Le retrait du pavillon est donc totalement illégal. Le Panama a d'ailleurs fini par reconnaître qu'il avait subi des pressions de l'Italie qui menaçaient de créer des difficultés à tous les navires battant pavillon panaméen qui se présenteraient dans ses ports.
Donc pour l'Aquarius maintenant, Marie-Pierre, obtenir un nouveau pavillon, ça va être compliqué ?
Ah oui, très compliqué. Hein. Non pour des raisons juridiques ou économiques, mais bien politiques. Et c'est là que nous entrons dans l'irrationnel, explique SOS Méditerranée. Les affréteurs de l'Aquarius ont compris que l'Italie menacerait tout pays lui accordant son pavillon. Ils comprennent aussi que les grands pavillons hésiteront à risquer des représailles uniquement pour défendre le navire de l'ONG. Ils ont demandé un pavillon européen, mais espèrent surtout que l'Europe va les aider dans leur démarche. Francis Valla est président de SOS Méditerranée.
Nous ne désespérons pas, parce que jusqu'à présent, le droit n'était plus respecté depuis longtemps en Méditerranée centrale, mais ça se voyait plus ou moins. Là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, si je puis dire. Donc l'atteinte au droit est tellement importante que nous espérons un sursaut de la part des États de droit, des États démocratiques, pour que, au moins, au niveau de ce principe sacro-saint, quand même, qui est le respect du droit international, il nous aide. Je pense que pour beaucoup d'États, l'écorchure, plus que l'écorchure qui vient d'être faite au droit international, peut être une motivation suffisante pour que le bateau continue d'exercer ses activités, parce qu'il serait intenable politiquement d'être à la fois un État de droit et de tolérer qu'un bateau soit empêché de naviguer seulement parce qu'il sauve des gens.
Et oui, parce que ce qui compte pour l'Aquarius, c'est de repartir au plus vite, sauver des vies, quel que soit le pavillon.
Merci Marie-Pierre Véraud. Les racines des mots contemporains ne sont pas dans le déplacement des êtres humains, mais dans le règne illimité de la concurrence et de la gouvernance, dans le primat de la finance et dans la surdité des technocraties. Extrait du manifeste signé par 150 intellectuels, artistes et militants associatifs et publié par Mediapart aujourd'hui. La liberté de circulation et l'égalité des droits sociaux pour les immigrés présents dans les pays d'accueil sont des droits fondamentaux de l'humanité, écrivent-ils encore. Comme en écho à ce manifeste, le maire communiste de Montreuil, Patrice Bessac, a réquisitionné des locaux vides appartenant à l'État. Il y a relogé plus de 150 travailleurs migrants qui étaient installés auparavant au foyer Barra, une résidence sociale devenue insalubre. Les collectivités territoriales demandent à Emmanuel Macron de renouer le dialogue avec leurs représentants. À la veille du congrès des régions de France à Marseille, les présidents des trois plus importantes associations d'élus locaux, François Baroin pour les maires, Dominique Bussereau pour les départements et Hervé Morin pour les régions, organisent une réunion publique dans la cité phocéenne pour dénoncer l'attitude d'Emmanuel Macron et de l'exécutif et pour lancer un grand appel à une relance de la décentralisation. Depuis un an, les relations se sont considérablement dégradées entre Emmanuel Macron et les collectivités, au point de générer une grande colère et un front commun de la contestation, Stéphane Robert.
Tout avait bien commencé entre Emmanuel Macron et les collectivités territoriales, puisqu'au lendemain de son élection, le chef de l'État avait décidé d'instaurer une conférence des territoires, instance de dialogue censée permettre de fluidifier les relations avec l'exécutif. Mais à l'occasion de la réunion de la première conférence des territoires en juillet 2017, le Premier ministre avait annoncé que l'État ne verserait pas une dotation de 300 millions d'euros qui leur était promise, première vexation. Et puis il avait indiqué que le gouvernement exigerait 13 milliards d'euros d'économies aux grandes collectivités sur l'ensemble du quinquennat, soit 3 milliards de plus que ce qu'Emmanuel Macron avait chiffré durant sa campagne. Depuis, les relations n'ont cessé de se dégrader, avec pour les communes la suppression de la taxe d'habitation. Certes, elle est compensée, mais les maires craignent de ne plus avoir la main pour moduler cet impôt en fonction des besoins. Les départements, eux, estiment que les réductions budgétaires exigées ne sont pas tenables et ils redoutent que le gouvernement décide de transférer la taxe foncière qu'ils perçoivent aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Quant aux régions, on leur a supprimé la gestion des filières d'apprentissage confiées aux branches professionnelles et également la taxe apprentissage qui va avec. Résultat, tous dénoncent une reprise en main verticale de l'exercice du pouvoir par l'exécutif, à rebours de toute la politique de décentralisation initiée depuis 30 ans, et ils demandent que l'État revienne à de meilleurs sentiments. C'est donc tout l'objet de cette réunion publique ce soir à Marseille, et ils reçoivent en cela le soutien du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a décidé de s'associer à leur combat et de s'afficher à leur côté. Gérard Larcher qui peut avoir un vrai poids dans les discussions puisqu'il négocie depuis plusieurs mois déjà la réforme des institutions voulue par le président de la République, Emmanuel Macron.
Le Rassemblement national hésite à se pourvoir en cassation. La justice a décidé en appel de saisir sur les comptes du parti non plus 2 millions mais un seul million d'euros. Et le parti estime se retrouver devant un choix cornélien. L'agence qui doit nous restituer le million d'euros explique Marine Le Pen nous demande une attestation de non-pourvoi pour pouvoir nous rendre cette somme. Il est donc possible que le Rassemblement national n'aille pas plus loin dans la procédure. Il faut limiter le recours à l'enfermement pour les mineurs délinquants. C'est la conclusion du rapport d'une mission sénatoriale adoptée après 6 mois de travail. La mission, présidée par la sénatrice Les Républicains Catherine Trundley, s'est déplacée dans différents lieux d'enfermement, établissements pénitentiaires, hôpitaux psychiatriques et centres éducatifs fermés. Alors il existe actuellement 52 centres éducatifs fermés en France et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, vient d'annoncer son intention d'en ouvrir une vingtaine d'autres. Bonsoir Florence Thuram.
Bonsoir.
Vous avez fait le point sur les conclusions et les préconisations de la mission avec le sénateur de La République En Marche, Michel Amiel.
Un enfant, un adolescent, ce n'est pas un adulte en miniature, c'est un être humain en devenir. Et c'est l'esprit qui anime la fameuse ordonnance du 2 février 1947.
Une ordonnance qu'il convient toutefois de réécrire, estiment les sénateurs, pour renouer avec son esprit d'origine. Il consacre la primauté de l'éducatif sur le répressif, alors que l'on compte actuellement plus de 800 mineurs incarcérés en France, et pour certains, dans des conditions inacceptables, insiste Michel Amiel en tant que rapporteur de la mission.
En matière d'incarcération, il y a effectivement deux solutions aujourd'hui. Les quartiers pour mineurs, qui comme son nom l'indique, sont des quartiers réservés aux mineurs, mais dans des prisons ou dans des centrales où il y a des adultes, avec la promiscuité qui théoriquement est interdite, en réalité existe. Celui qu'on a visité en particulier, ça se résume en promiscuité et insalubrité. Alors ces deux mots en disent déjà long. Pour des jeunes qui, je le rappelle, vont rester peu de temps, théoriquement, et dont 70% ne sont que prévenus, c'est-à-dire n'ont pas encore été jugés. Donc ce ne sont absolument pas des lieux adaptés. Alors je serais tenté de dire, si on a vraiment la nécessité d'incarcérer un mineur en milieu carcéral, l'établissement pénitentiaire pour mineurs est beaucoup plus satisfaisant, parce que la prise en charge relève d'un véritable binôme entre administration pénitentiaire et éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, plus l'éducation nationale qui vient se greffer là-dessus.
Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, veut-elle développer les centres éducatifs fermés conçus comme des alternatives à la prison et où sont placés actuellement près de 500 mineurs en France? Mais outre leur coût, 660 euros par jeune et par jour, la mission déplore que les conditions nécessaires à leur bon fonctionnement ne soient pas toujours réunies, au point que certains sont devenus, selon elle, de véritables cocottes minutes. Les sénateurs plaident notamment pour une revalorisation du métier d'éducateur spécialisé qui permettrait de pallier les difficultés de recrutement dans ce type de structure, mais aussi pour une palette de solutions d'hébergement plus diversifiées afin de mieux accompagner la sortie et la réinsertion des jeunes concernés.
Florence Thuram, un clip de rap appelant à pendre les Blancs a été retiré du site de vidéo YouTube et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dénonce des propos abjects et des attaques ignominieuses. Une centaine de salariés de l'ancienne usine GM&S de la Souterraine menacent d'assigner Renault et PSA pour abus de position dominante. Ils ont adressé une lettre au PDG de Renault et Peugeot pour leur demander une conciliation. Ils demandent réparation, Jean-Marc Chardon, parce qu'à leurs yeux, les constructeurs sont responsables de la fermeture de l'usine de l'équipementier automobile.
En effet, à leurs yeux, les constructeurs ne sont pas allés au bout de leur engagement, quand bien même ils avaient répondu sous la répétition de grèves, de démonstrations publiques, jusqu'à la menace de faire sauter l'usine. Les constructeurs y avaient répondu en passant des commandes et non sans que le gouvernement les appelle à le faire d'ailleurs. C'est cette pression redoublée qui avait fait bouger les choses. Il n'empêche la réalité d'aujourd'hui, c'est une usine qui ne fonctionne qu'à petit régime, peu d'ouvriers sur ceux qui n'ont pas été licenciés, sont en activité, une minorité. C'est que l'usine ne croule pas sous les commandes, une évidence, pour les salariés, c'est que les grands constructeurs rechignent à le faire, qu'ils auraient transféré certaines commandes à d'autres sous-traitants. Et leur avocat se fait fort de produire des échanges de mails qui le prouveraient aux juges s'ils sont saisis de faire la part des choses. Mais au-delà, c'est la question de l'avenir d'un site industriel qui est posé, dont la gestion des anciens dirigeants a été mise en cause, un site que les salariés voudraient maintenir coûte que coûte dans un environnement, celui de la Creuse, lui-même désindustrialisé, pas rentable en tout cas au vu des actionnaires et des industriels. Reste que les salariés espèrent maintenant maintenant mettre en place des manquements, mettre en balance du moins des manquements aux engagements et une souffrance morale qui leur colle à la peau, afin au moins d'obtenir des dédommagements financiers.
Jean-Marc Chardon, demain jeudi, la journée sera agréable avec des températures douces pour la saison. Quelques gelées sont possibles le matin sur les Ardennes. Il fera 20 à 30 degrés l'après-midi, jusqu'à 28 à 32 dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.